Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mon prénom est David, mon nom José, et je suis le pasteur de cette communauté avec deux autres collègues qui sont soit dans la salle, soit dans les autres groupes. Prendre soin de sa foi, ça veut dire quoi? C'est un peu ce dont j'aimerais partager et méditer ce matin avec vous, avec en arrière-plan l'idée qu'on a eu des grosses séries de prédications sur des thèmes assez essentiels. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un peu le pasteur qui doit rappeler, puis un peu dépoussiérer. Mais en début d'année, on a lu un livre tous ensemble qui s'appelait « Un mois pour aimer », où on allait sur les deux essentiels de l'amour de Dieu pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et puis là, on a aussi fait toute une préparation pour la fête de Pâques, cette fête centrale pour notre foi. On a aussi essayé de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire de se préparer à cette fête de Pâques, notamment à travers le carême. On peut encore ajouter pour notre période de vie d'église, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin février seulement, on a pu se retrouver comme on se retrouve ce matin, quoi. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais moi, ça me semble que ça fait une année qu'on est nouveau dans la configuration normale. Non, ça fait à peine 2 mois que le Covid a soi-disant disparu. On a aussi vécu et on vit un cours très intéressant et très fructueux, fécond, un cours alpha, depuis le début mars avec une quinzaine de participants qui découvrent la foi, qui redécouvrent la foi et qui font des pas assez forts dans la direction du Seigneur. Et puis finalement, là on ne voit pas parce qu'il y a les rideaux qui nous empêchent de voir, mais on est en réflexion, en communauté, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que nous fassions par rapport à un investissement immobilier en face de notre bâtiment, avec le bâtiment Akrilouma. C'est plutôt des signes positifs de vie d'église, je trouve. Ça signifie qu'il y a une belle dynamique. Et pourtant, d'après moi, ce n'est pas décisif. Et puis cette semaine, j'ai été interpellé par la parole du prophète. Alors la parole du prophète, elle est toujours un peu compliquée à entendre et encore plus à écouter. Et pourtant, j'y vais quand même ce matin parce que j'ai été interpellé notamment par un verset. Je crois que la parole du prophète, elle vient nous chercher là où on n'a pas envie d'être cherché. Et rarement, elle nous laisse indifférents. Alors peut-être que vous allez la mettre de côté, peut-être que vous allez être impacté, peut-être que vous allez dire, il est un peu casse-pied de nous prendre ce texte-là ce matin. Mais j'ai décidé de le prendre avec cette question en filigrane. Est-ce que notre foi nous façonne? Est-ce que notre foi, finalement, est le bien le plus précieux? Est-ce que ma relation à Dieu, moi l'enfant, lui le père, est structurante pour ma vie et est-ce qu'elle est structurante, cette relation, pour notre vie communautaire? Parce qu'il n'est pas que question dans la parole du prophète de ma petite vie personnelle, il est bien plus souvent question de la vie du peuple de Dieu dans son ensemble. Et s'il y a bien une définition du peuple, c'est l'Église pour nous aujourd'hui. Alors vous êtes prêts? On y va, on attache nos ceintures et c'est parti. Nathan, c'est parti, c'est bon. Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, donc c'est Jérémie qui parle. Il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut marquée comme il arrive dans la main, avec l'argile dans la main du potier. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie, telle qu'il lui plut de la faire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ou église de Jésus-Christ? Déclaration du Seigneur. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël ou église de Jésus-Christ à Nyon et ailleurs. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Maintenant, je te prie, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à ceux de Nion. Ainsi parle le Seigneur. Je façonne un malheur pour vous, je prépare un plan contre vous. Que chacun de vous revienne de sa voie mauvaise. Réformez vos vies et vos agissements. Mais ils disent, à quoi bon ? Nous suivrons nos pensées et chacun de nous agira selon l'obstination de son cœur mauvais. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, faites votre enquête parmi les nations, je vous prie. Qui a jamais entendu pareille chose ? Israël, la jolie, a commis d'horribles excès. Abandonne-t-on ce qui sort du rocher en pleine campagne ou abandonne-t-on la neige du Liban ? Se défait-on de l'eau fraîche qui vient de loin ? Cependant, mon peuple m'a oublié. Ils offrent de l'encens inutilement. On les a fait trébucher dans leurs voies, dans les routes d'autrefois, pour qu'ils suivent des sentiers et des voies non frayées. Ils ont réduit leur pays en un lieu dévasté, en un objet de sifflement d'horreur pour toujours. Tous ceux qui y passent sont atterrés. Et de dégoût, ils hochent la tête. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Ce n'est pas de face que je les verrai, mais de dos, au jour où la catastrophe s'abattra sur eux. Ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie, car la loi ne fera pas défaut aux prêtres, ni le conseil aux sages, ni la parole aux prophètes. Alors, venez, frappons-le par la langue, et ne prêtons pas attention à toutes ces paroles. On a quand même le droit de dire amen, c'est la parole. On a tout d'abord une image célèbre et qui fait du bien, qui évoque quelque chose de beau et de fragile à la fois. C'est cette argile de la main du potier qui se laisse façonner. Je ne sais pas vous, mais le potier, moi, ça éveille mon imagination. Ça nous déclare un peu que tout est possible, tout est envisageable si on est entre de bonnes mains. Et c'est une image certainement qui correspond à l'image que l'on se fait de Dieu. Comme d'un Père aimant qui nous façonne, qui veut nous faire évoluer, grandir, non seulement moi, mais tout un peuple. Et dans le même temps, on a un texte qui fait un peu froid dans le dos, avec l'image d'un Dieu un peu versatile et surtout un peu ce Dieu au conditionnel. Si vous faites ça, alors, mais si vous ne faites pas ça, alors. Est-ce toujours un Dieu à l'amour inconditionnel ? Bonne question. Hein ? À première vue, on peut en douter. En tous les cas, on est heurté et on est un peu mal à l'aise. Et peut-être sommes-nous dans une époque, et je crois que c'était presque le cas de toutes les époques, où l'image de Dieu est toujours un peu brouillée. Actuellement, on est plutôt dans le brouillage avec une sorte de bon père qui acquiesce à tout ce que pourraient faire et dire ses enfants. Et c'est un écueil conséquent. Et c'est un écueil conséquent depuis un bout de temps d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Parce qu'avec ce genre de texte, on touche à la personne de Dieu qui reprend, qui façonne, qui dirige nos vies finalement. Et cela va toujours nous prendre à rebrousse-poil. Car ce n'est pas logique pour les êtres humains que nous sommes, hommes et femmes, ce n'est pas logique pour l'humain d'écouter une parole qui vient de Dieu. C'est chaque fois un combat. Et je crois que c'est ce texte qui nous le dit de manière très claire. On redécouvre peut-être avec une certaine appréhension l'aversion radicale de Dieu pour le péché. Alors que de notre côté, on est comme les Israélites, souvent on répond « À quoi bon ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de m'en préoccuper ?» Comme les êtres humains, comme les Israélites, nous sommes humains et nous avons ce même type de réaction. Voire même, je ne sais pas si vous avez vu la fin du passage, on peut encore avoir une hostilité plus marquée envers celui qui nous dit la vérité, puisque quelle est la réaction des Israélites ? Ils veulent faire quoi ? Couper la langue à Jérémie. C'est plus facile, hein ? Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. On l'enfouit et on le met de côté, si possible avec un peu de violence. Car le prophète pointe là où ça fait mal, le prophète pointe là précisément où on a besoin d'être façonné. Prendre soin de notre foi est égal à se laisser façonner par Dieu. Faire le pari de la foi, c'est égal à penser que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous en tant qu'individu et en tant que communauté. Se laisser façonner, c'est égal à ne pas laisser le péché nous dominer. Et le péché, je vais vous donner une définition très simple, ce n'est pas de mentir ou pas mentir, ce n'est pas de même, je ne sais pas, faire une erreur dans le frat news qu'on envoyait. C'est pas, tout le monde l'a lu, ça fait plaisir. C'est pas forcément ça en premier lieu. C'est se dire, premièrement, que je vais me débrouiller tout seul comme un grand. C'est la première réaction dans le jardin d'Éden, puis Christian a commencé par ça en disant que ça commençait par la création, la théologie chrétienne. C'est aussi cette première réaction humaine où Dieu dit « vous toucherez pas » et l'humain dit « j'ai envie de toucher ». Où Dieu dit « tu ne vas pas aller là », puis l'humain dit ben « précisément, c'est là que j'ai envie d'aller ». Et il y va, gaiement et guilleret, jusqu'à ce que sa batte se couperait. C'est finalement se dire « je suis mieux placé que Dieu pour ma vie, pour savoir ce qu'il faut faire ». Puis je crois que dans ton témoignage, Marie, c'était aussi assez fort en filigrane de se dire « même quand on est pris dans des situations exigeantes, une réaction de base, c'est de se dire « je vais mieux me débrouiller toute seule qu'avec Dieu ». Parce qu'on est absorbé par ce qui nous occupe. C'est pour ça que la parole du prophète nous réveille toujours. Nous fait peut-être un peu mal, mais fondamentalement, elle nous réveille. Et Pâques, qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, nous offre le plus précieux exemple de la manière dont Jésus a consenti à être façonné par le Père. Quand il dit « Abba Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe de douleur », ça c'est sa volonté à lui, à Jésus, puis là il y a mystère, comment ça se fait qu'ils ont une volonté différente, « toutefois non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux ». Est-ce que Jésus est là dans une relation avec un Dieu d'amour, tel que nous avons tendance à le concevoir? Eh bien oui, parce que maintenant, et nous allons le fêter encore ce matin à travers le repas de la Sainte Cène, ça paraît évident que Jésus a payé un prix élevé pour notre salut, pour notre libération, pour notre sécurité identitaire et émotionnelle. S'il était allé sur sa volonté, il ne serait pas allé au bout de sa mission. En obéissant à celle de son Père, il allait au bout de sa mission pour nous sauver et venir nous chercher là où nous sommes et nous tirer de notre péché. Alors oui, il y a un coût élevé à notre foi qu'il s'agit de respecter. Et là, j'ai envie de vous partager, peut-être pour la première fois, je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu dans les années 1930. Et là, le texte qu'on va lire, c'est de 1937. Il est en train de résister à l'immense montée du nazisme en Allemagne. Et voilà ce qu'il dit, c'est exact, c'est les toutes premières phrases de son livre « Vivre en disciple ». Vous allez voir, il n'y a pas tellement de gants ni d'introduction qui nous mettent un peu à l'aise avant de commencer. Ce n'est pas le genre de petites anecdotes qu'on dit « j'étais dans une église et j'ai fait un gag », puis ensuite on fait un petit commentaire sur la Bible. Ça, c'est les titres américains, généralement. Lui, il va tout de suite à l'essentiel. « La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre église. Actuellement, dans notre combat, il en va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à brader, le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais, la grâce servant de réservoir intarissable à l'Église, dans lequel puisent des mains inconsidérées pour distribuer, sans hésitation ni limite, la grâce sans aucun prix, sans aucun coût. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. Et là, c'est capital. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout peut donc rester comme avant. La grâce à bon marché, finalement, et ça c'est moi qui continue, est une sorte d'idole. C'est-à-dire qu'on façonne Dieu comme on voudrait qu'il soit, puis pas comme réellement il est. On essaye de faire avec des pratiques, des rites, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les pratiques religieuses dans le monde, une espèce de marchandage plus ou moins équilibré dans le sens où on essaye de plaire à Dieu, puis lui, surtout, ce serait bien qu'il nous plaise aussi. Et puis, on fait un peu du donnant-donnant. Et c'est ce qu'on retrouve même dans ce texte de Jérémie, où les Israélites, continuais d'avoir une pratique religieuse qui était tout à fait régulière et puis qui était tout à fait active. Ils offraient de l'encens, ils continuaient d'avoir tous ces rites-là qui leur étaient proposés. Et pourtant, la parole les touche là où ça fait mal. Et là, pour nous, je pense qu'actuellement, ce serait effectivement, comme le dit Bonhoeffer, une sorte de pardon automatique. Pêchons-nous plutôt que... Enfin, on peut pêcher allègrement, comme ça, au moins, la grâce va abonder allègrement. Finalement, c'est se dire ça, tout peut rester comme avant. Je suis chrétien, mais dans le fond, est-ce que ça me façonne, est-ce que ça me structure? Ce n'est pas très important. Dieu est un Dieu de grâce et il va toujours m'accueillir. La grâce qui coûte, elle, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. Et vous savez, c'est toutes des allusions à des épisodes des évangiles. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce que, alors seulement, elle offre la vie à l'homme. Elle coûte parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur que je suis. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté la vie de son Fils. Vous avez été acquis et nous avons été acquis, chers frères et sœurs, à un prix élevé. Parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Point. Et là, ça ne peut que me faire penser à cette question que pose le prophète au peuple d'Israël. Abandonne-t-on ce qui sort du rocher en pleine campagne ou la neige du Liban? Se défait-on de l'eau fraîche qui vient de loin? Déjà, il y a plus de 2000 ans, l'histoire de l'eau dans cette contrée aride était une histoire difficile. Ils en avaient besoin, c'était une question de vie ou de mort. Donc d'abandonner ce qui vient comme eau fraîche, d'abandonner ce qui vient des neiges du Liban, ça ne leur venait même pas à l'esprit parce que c'était le bien le plus précieux. Et là, le prophète met en rapport direct cet attachement à Dieu, cette volonté de lui plaire et cet attachement à l'eau, finalement, à la vie qui pourra permettre de faire pousser tout ce qui a besoin d'être là. C'est vraiment deux manières de dire la même chose. Une manière peut-être plus théologique avec Bonhoeffer, une manière plus poétique avec le prophète. Les deux disent l'attachement avec le cœur, l'attachement avec les tripes, l'attachement avec la raison à notre Dieu. Les deux disent que la vie offerte par Dieu est l'essentiel de notre vie tout court. Prendre soin de sa foi, chers frères et sœurs, c'est dire que nous lui accordons de la valeur. Nous honorons la grâce que Dieu fait, la grâce que Dieu me fait, la grâce que Dieu nous fait. Prendre au sérieux cette grâce, cette eau fraîche qui vient de loin, c'est aussi et peut-être avant tout se laisser transformer par Dieu et non produire des actes religieux sans le cœur, comme par exemple offrir de l'encens, comme le texte de Jérémie nous le dit. Prendre soin de sa foi, c'est continuer sur notre mise en pratique de l'essentiel, les deux commandements d'amour que nous avons médités longuement en début d'année. Prendre soin de sa foi, c'est méditer la parole en priant comme Myriam nous l'a rappelé. Et sur ce chemin-là, nous devons consentir à nous laisser façonner, à nous laisser transformer, ce qui ne va pas sans autre. Ça signifie oser l'introspection, ça signifie oser pointer là où ça fait mal, sur nos limites, et oser se laisser remettre en question par notre Dieu, comme individu et comme communauté. Un autre texte dans l'Évangile magnifique, dans Jean 15, nous parle de Dieu exactement de la même manière. Et j'aime beaucoup ces échos dans la parole. On est dans l'Ancien Testament avec Jérémie. Dans Jean 15, c'est Jésus qui nous parle de Dieu et de la relation qui nous unit à lui. Il prend l'image d'un cep auquel nous, les sarments, sommes attachés et le cep, c'est Dieu. Et là, il y a vraiment cette idée d'attachement comme dans l'idée de la poterie que Dieu nous façonne, nous donne sa sève pour que nous puissions grandir. Et dans ce même texte, ce même Dieu est aussi celui qui taille les sarments pour qu'ils produisent encore plus de fruits. Et de nouveau, on a ces deux aspects de Dieu, ces deux images de Dieu, cette sécurité inconditionnelle du cep qui va nous nourrir, et cette réalité qu'il prend aussi le sécateur pour que nous puissions porter plus de fruits. Prendre soin de notre foi, finalement, c'est laisser Dieu prendre soin de nous. Amen.